radio, une appli connectée à notre région. Vous écoutez ici, il est 2h. Ici soutient la musique locale. Écoutez, voici l'un de nos coups de cœur.
Archimède, les planches.
J'entends vivre les pieds au plancher.
Deux fois nommé aux victoires de la musique, le groupe Archimède, emmené par les frères Nicolas et Frédéric Buana. Archimède nous livre un son pop-rock aux sonorités britanniques avec des textes en français et des refrains entraînants. C'était Archimède.
Un coup de cœur, ici Mayenne.
Écoutez ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici Saint-Étienne-Loire.
Aujourd'hui, direction les Grands Mursins à Arcon. C'est un site qu'on connaît un petit peu pour ses arbres majestueux et ses panoramas, mais un petit peu moins pour son emblème animal. Avec nous, Marion Gillardon de l'Office du Tourisme de Roanne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Effectivement, l'emblème de cet espace naturel sensible est l'écureuil. C'est un clin d'œil historique. Le domaine a appartenu pendant près de 80 ans à la Caisse d'Épargne, de 1934 à 2011, et comme vous le savez...
À La Massif, la parole de nos sociétaires sera toujours notre meilleure publicité. Rebecca, sociétaire à La Massif.
Pour moi, épargner à La Massif, c'est solide. J'y suis depuis que j'ai 19 ans et forcément, j'y ai toute confiance. D'ailleurs, j'y ai tous mes contrats d'assurance.
La Massif, c'est l'assurance de bien épargner, Rebecca. La Massif, c'est vous. Retrouvez toutes nos offres et mentions sur massif.fr. Les contrats d'épargne assurance vie multisupport distribués par Massif ou Massif Finance Épargne sont assurés par Massif VSE, entreprise régie par le Code des assurances.
Machin et tout, c'est vous qui choisissez de sortir. Pourquoi vous sentez qu'un être humain ? Et après, vous êtes surpris quand ça se passe mal. Vous avez l'arrogance de croire qu'un être humain, il va bien vous traiter pendant 30 ans. Il y a des êtres humains, ils trichent au Scrabble. C'est quoi l'intérêt de tricher au Scrabble ? Et vous, vous leur confiez vos émotions, vous leur confiez votre cœur à un être humain et vous êtes surpris quand l'être humain, il vous fait un coup de Trafalgar, mais vous n'êtes pas bien. Arrêtez de vous mettre en couple. Mettez-vous en couple avec un esprit. Voilà, tu m'as coupé avec un esprit, voilà, l'esprit au moins il va pas t'emmerder. Enfin, en même temps, un esprit, c'est un ancien être humain, donc si ça peut être emmerdant. Non, mais pas les esprits. Arrêtez de faire confiance aux êtres humains. T'as cru que ton partenaire c'était qui ? C'était Jésus. D'ailleurs, même Jésus, ils l'ont tué, les êtres humains. Même lui s'est fait avoir. Et vous exigez une loyauté pendant 30 ans. Arrêtez ça. Arrêtez de vous mettre en couple avec des humains. Mettez-vous avec un arbre. Voilà, l'arbre c'est solide, calme, silencieux, stable. Et en plus, il est enraciné, il peut pas partir. Voilà, ton ex, il aurait dû essayer. L'arbre, tu peux lui faire des câlins. Il parle pas, il t'engueule pas. Tu peux oublier les sacs poubelles, il dit rien. Tu peux lui raconter ta journée, il te juge pas. Et c'est mieux qu'un mec, c'est mieux qu'une meuf, c'est mieux qu'un psy. Alors après, niveau sexe, écoute, c'est du bois. Il est toujours dur. Alors après ça dépend de ce qu'on aime, hein, ça dépend de ce que t'aimes, tu vois. En même temps, si c'est pas très fun, au moins il te ghoste pas, l'arbre, tu vois. Il a pas d'insta, il poste pas de story ambigu en mode je suis dans une forêt chelou. Et le pire, c'est que des fois, tu parles à un arbre dans la vie, tu vois. T'as plus de réponses que quand tu parles à une copine. Parce qu'un arbre, lui, il te fait pas rien, non, rien. Non, c'est pas ça, mais laisse tomber. Alors, moralité, si vous vous mettez en couple avec un être humain, n'oubliez jamais qu'en face de vous, vous avez un être humain. La cabine minute, la cabine minute, la minute de Camini. La cabine minute, la cabine minute, la minute de Camini.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici Brésisel.
Salut Brésisel, ici Edouard Nénès.
Ça vous prend souvent de gueuler comme ça, comme des dégénérés.
Allons, un peu de calme, il y a des gens qui travaillent ici.
Je m'appelle Delphine, j'ai 57 ans et j'étais une ancienne élève de Marc Morvan.
C'est un sculpteur.
Ah bon ? On peut gagner sa vie avec la sculpture ?
Non mais c'est pas une question d'argent.
Ah, qu'est-ce que tu fais là ?
Apparemment, je suis dans le petit bonheur.
Tu n'étais pas au courant, je croyais que tu savais.
C'est là que tu habites ?
J'habite à Douarnenez et j'habiterai nulle part ailleurs qu'à Douarnenez.
Je crois que nulle part, on serait mieux qu'ici.
On a la mer, on a la campagne, on a des gens sympas, on a plein de Bretons en plus.
Ils se déguisent en Bretonne maintenant. Qu'est-ce qu'ils vont chercher ?
Et ton petit coin de paradis ?
C'était un coin d'enfer.
Ah, moi, mon coin préféré quand je me balade, c'est les Plomas.
C'est par où ?
Eh ben, les Plomas, c'est à Douarnenez, c'est juste au-dessus du port du Rosemeur et c'est vachement sympa. Il y a plein d'aigrettes et d'oiseaux et voilà.
C'est plein de choses, hein. Ça va d'un oiseau qui s'envole à Azaz. C'est assez vaste, quoi. Il y a tout, quoi.
En effet. Zoubi, zoubi,
zou. Il était bon, ce premier baiser. Zoubi, zoubi,
zou. Premier bisou, à l'école maternelle.
Ah, vous n'avez pas perdu de temps, hein?
Je me souviens très bien parce qu'il était tout petit et il voulait absolument m'embrasser. Moi, je voulais pas et il m'a mordu. Mais c'est vrai en plus.
Mordez ses petits camarades à la maternelle. Jamais.
Ce matin, exercice d'expression orale.
Moi, l'expression bretonne que j'utilise, c'est l'expression de là où je suis, c'est maréo.
J'ai rien compris. Non, alors c'est moi. C'est...
Non, moi non plus, j'ai rien compris.
C'est du douarneniste.
Mais vous savez ce que ça veut dire, au moins ?
Je suis pas sûr qu'on doit traduire maréo.
Non, mais je crois qu'il n'y a pas moyen. Je pille jamais rien ce que vous dites.
Vous pouvez pas comprendre.
Maréo. Les femmes disent maréo ou les hommes disent marère.
Tu comprends maintenant ?
Oui, ça, je comprends, oui.
Très, très poétique, je ne connaissais pas toutes ces expressions.
Allez, salut.
Ici.
Actu locale, musique et bonne humeur. Les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ici Périgord.
Parmi les plantes que nos mamies et papys glanent dans la nature, nous avons la sauge. On dit la chauvia ou la chalvia en occitan d'ici. Vejaya que chimblo que lo planta. Savez-vous à quoi ressemble la sauge? De belles fleurs mauves avec de longues tiges. Qui a de la chauvia d'un chouvorzier, des médéchi n'a pas métier. Qui a de la sauge dans son jardin n'a pas besoin d'un médecin. En agriculture, on s'en sert pour les vaches quand elles ont le ventre gonflé. Pour les humains, pareil. Pour tout souci digestif, de ballonnement, une tisane de sauge règle le problème. Au XVIIIe siècle, les asthmatiques roulaient des feuilles de sauge pour les fumer. Pour être en bonne santé, une recette de tisane, une bonne eau bouillie dans laquelle infuse feuilles de sauge et de thym. Chalvio bouillide, chauve la vida. Sauge bouillie, sauve la vie. Génial, non? Allez, adieu.
Écoutez ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts.
Et pour cette nouvelle saison, au parc Argonne Découverte où nous sommes aujourd'hui, quatre grands prédateurs présents naturellement dans la région sont mis à l'honneur. Bonjour Nicolas Villerette.
Bonjour Olivier.
Responsable zoologique et directeur adjoint du parc Argonne Découverte, quels sont ces quatre grands prédateurs?
Le loup gris d'Europe, le pigargue à queue blanche, le hibou grand-duc d'Europe et le lynx. Pourquoi ces quatre-là, on les met à l'honneur? C'est parce qu'ils font leur grand retour dans notre secteur et que quand un prédateur fait un retour dans un endroit, souvent ça peut faire peur.
On parle de retour à l'état sauvage.
On parle de retour à l'état sauvage. Nous, ceux qu'on présente, ils sont en captivité, en volière ou en enclos, et ils resteront en captivité. Mais naturellement, ils font leur retour ici. Et nous, notre objectif, c'est de sensibiliser les gens, de présenter ces espèces parce qu'on a moins peur de ce qu'on connaît.
Donc on peut déjà voir ici au parc Argonne Découverte des grands ducs d'Europe, des pigargues à queue blanche ou encore des loups. Le lynx, lui, arrivera plus tard, même s'il est déjà présent à l'état sauvage dans la région. Parlez-nous un peu du lynx, justement.
Alors effectivement, ici au parc Argonne Découverte, nous n'avons pas encore de lynx, mais on y travaille. Le lynx est un animal très discret. Alors c'est un bon prédateur, notamment de chevreuils. C'est un animal forestier, un peu comme les loups, mais autant les loups, quand ils font leur retour dans un secteur, c'est compliqué parce que c'est un animal qui va, quand il s'approche des fermes, poser des problèmes au niveau des troupeaux de moutons, au niveau des veaux par exemple. Autant le lynx, ça reste un animal très discret, qui va chasser des proies comme le chevreuil, qui va en plus manger sa proie jusqu'à la dernière bouchée. Et vraiment un animal solitaire, contrairement aux loups qui vont vivre en meute, donc on peut les repérer plus facilement. Dans les Ardennes, il y a eu quelques lynx observés, mais pour autant, nous on veut quand même sensibiliser au fait que les gens, potentiellement, en rentrant d'une soirée, vont pourquoi pas croiser un lynx un de ces jours. C'est tout à fait possible.
Le lynx, c'est un félin, un gros chat. Décrivez-nous, pour ceux qui sont présents dans les Ardennes à l'état sauvage, à quoi il ressemble.
Alors, c'est un animal qui a les oreilles pointues avec un petit pinceau noir au bout des oreilles. Vraiment, on va dire un chat haut sur pattes. Alors, quand même de couleur marron avec des petits spots de taches plus foncées qui va faire 20-25 kilos. Et c'est un animal qui va volontiers, en fait, se cacher, se poser, laisser les gens passer. Même parfois, lorsqu'il y a des chasses, il ne va pas forcément s'enfuir. C'est pour ça qu'il est difficile à voir. Il va aller se cacher contre un arbre, attendre que la battue passe et sortir ensuite.
D'autant plus que des fois, pour dormir, il peut se mettre en hauteur.
Ah oui, bah oui, c'est, on va dire qu'on en parlait, c'est un gros chat, on va dire ça comme ça. Donc il a
un gros arbre à chat avec un gros arbre, du coup.
Exactement, c'est ça. Donc un arbre accessible dans lequel il va pouvoir trouver refuge. Et après, il ne va pas se réfugier uniquement dans les arbres. C'est un animal qui va volontiers aller se cacher, un arbre tombé, une souche qui a soulevé un peu de terre, de roche, il va aller se mettre là-dessus. Surtout les femelles, quand elles ont des jeunes, elles vont aller trouver ce genre de petite caverne pour aller y mettre leurs jeunes en sécurité.
Une population qui avait totalement disparu, qui est en train de revenir. Pourquoi elle avait disparu?
Il y a une centaine d'années, les empoisonnements ont fait beaucoup de dégâts sur ces derniers maillons de la chaîne alimentaire. Les empoisonnements maintenant qui ont beaucoup, beaucoup moins lieu qu'avant. Et donc du coup, petit à petit, ils commencent à regagner du terrain. Un animal discret, forestier, et donc les forêts des Ardennes s'y prêtent très bien pour son retour.
Et là où il y a de la forêt, les lynx sont de retour en Champagne-Ardennes. Merci Nicolas Villerette, responsable zoologique.
Merci Olivier.
Ici.
Yeah. Fais-moi croire que je sais danser comme Michael ou bien Beyoncé. Fais-moi briller pour oublier mon chagrin. DJ, fais-moi oublier que je suis pressé. Fais-moi planer sur du Marley. Fais-moi arrêter de penser à demain. DJ, je te confie mes nuits, je te confie ma vie sans hésiter. Je sais comment me rendre vivant. DJ, je te confie mon cœur abîmé. Je te confie tous mes secrets. Oh, je veux la musique de mon DJ. La, 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 la. Ouais, j'ai besoin de m'oublier. La, 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 la. Je ne suis pas prêt de me coucher. La, 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 la. Je veux les bras levés pour mon DJ. DJ, 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 DJ. Fais-moi changer de météo. Fais-moi chanter comme un griot. Fais-moi voyager à Rio sans escale. DJ, fais-moi danser comme Travolta. Après deux, trois verres de soda, regarde qui tue comme Chiquita en pétale. DJ, je te confie mes nuits, je te confie ma vie sans hésiter. Je sais comment me rendre vivant. DJ, je te confie mon cœur abîmé. Je te confie tous mes secrets. Oh, je veux la musique de mon DJ.
Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici de Romardèche.
L'auteur du livre que je vous présente aujourd'hui dans Toujours à la page les a tous interrogés. Ce père de famille qui, après avoir tué femme et enfant, s'inquiète du sort de sa chienne. Ce japonais cannibale interpellé au bois de Boulogne ou encore ce membre de la Société de protection des oiseaux soupçonné d'être un tueur en série. Jacques Poinaz fut commissaire de police, chef adjoint de la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris, également chef de l'unité de coordination de lutte antiterroriste. Cet Ardéchois de naissance témoigne de sa carrière dans « Le temps des aveux », « Le réfrigérateur du japonais cannibale » et autres récits de la brigade criminelle. Un livre paru chez Mareuil Éditions. Le retour sur 13 des enquêtes les plus marquantes de sa carrière avec, en ligne de mire, à une époque où l'ADN n'était pas encore la reine des preuves, l'obtention des sacro-saints aveux. Des aveux qui viennent ou non, et qui dissimule parfois une partie de la réalité, qui laisse aussi souvent l'enquêteur avec un sentiment de frustration. Jacques Poinaz.
Oui, de la frustration, parce que les aveux ne sont pas toujours totalement sincères, ou complets, ou indiscutables. Il y a souvent une fragilité de l'aveu, puisque lorsque les aveux, on se projette déjà dans le procès et la preuve devant les assises pour les homicides. Mais ces histoires, c'est aussi ce basculement de la personne qui avoue, et souvent, même si le policier avant tout est content d'avoir résolu une affaire, parce qu'une affaire criminelle est toujours un poids pour les policiers, mais il y a également parfois un peu de, sinon de pitié, du moins de tristesse de voir un homme qui parfois avait une vie jusque-là normale et qui bascule dans le monde de la prison pour une longue peine.
Mais quelle perception vous avez de ça quand vous êtes face à quelqu'un qui n'est pas un criminel aguerri et qui bascule pour des raisons qui paraissent en fait futiles, si on y pense bien?
Alors, je crois que ça reste un mystère de l'homme, un mystère de l'humanité. Comment comprendre que quelqu'un qui a jusque-là eu une vie parfaitement banale, d'un seul coup, pour des raisons difficiles à imaginer, passe à des actes terribles?
On voit la grande diversité des affaires que vous avez traitées. C'est d'autant plus agréable à lire qu'effectivement, on ne sait jamais où vous allez nous emmener à chacune des histoires. Comment vous avez fait la sélection?
J'ai pris celles qui sont restées dans ma mémoire, je dirais, qui m'ont laissé un sentiment, soit de satisfaction, soit d'échec, ou comme celles qui se passent en Ardèche, où je reviens pratiquement dans mon village natal pour enquêter sur une affaire d'explosifs dans la communauté de l'ex-tueur de l'Ardèche, Pierre Conti. Mais souvent aussi parce que ce sont des affaires qui ont quelque chose de particulier, parfois de presque burlesque, parfois de troublant, comme ces adolescents qui, pour donner un alibi à leur ami, inventent un stratagème un peu diabolique. J'ai essayé de montrer que la réalité est souvent plus surprenante que la fiction même.
Et c'est sans doute ce qui est le plus fascinant dans chacune des histoires que nous confie Jacques Poinaz. Et ce qui est captivant, c'est ce récit au plus proche du travail de l'enquête et les impressions, les réflexions que partage l'auteur avec nous au fil de chacune. Alors si vous êtes fan de faits divers, jetez-vous sur Le Temps des aveux de Jacques Poinaz, paru aux éditions Mareuil.
Ici.
Actu local, musique et bonne humeur. Ici.
Still committments run deep in us.
de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ici Béarn Bigorre.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Affaires Classées, le podcast. Je vous emmène faire un petit tour deux siècles en arrière. Nous sommes dans la soirée du 1er mai 1827. Un paysan de Barcus rentre de la célèbre foire d'Oloron. Il est abattu par un inconnu. Question, qui lui en voulait donc ? Réponse dans un instant.
Affaires Classées, un podcast ici.
Chaque année, le 1er mai, la ville d'Oloron-Sainte-Marie organise sa traditionnelle foire au bétail. Un rendez-vous inspiré des grandes foires d'antan et qui attire plusieurs milliers de visiteurs depuis le XIVe siècle. Ce lundi 1er mai 1827, Dominique, un habitant de Barcus, l'a passé, comme beaucoup, dans la capitale du Haut-Béarn. Rentrant seul, à pied, il est 22h lorsqu'il parvient à l'entrée d'un petit pont dit de Choco, à une courte distance de sa maison d'habitation. À peine pose-t-il le pied sur l'ouvrage qu'une soudaine lueur déchire la nuit. Une lueur doublée d'une détonation. Pas de doute, Dominique vient d'essuyer un coup de fusil. Blessé, le fermier tombe en criant « À l'aide ! À l'aide !» Au loin, il y a un homme qui court le long du ruisseau, enjambant une barrière. Pas de doute, c'est l'agresseur. Marianne, une jeune servante occupée à ses prières, entend les hurlements plaintifs de cet homme qui appelle au secours. La bonne dame s'empresse d'alerter le maître de maison, l'instituteur et quelques paysans qui accourent afin de porter assistance au malheureux. Blessé à la poitrine et au bras gauche. Dominique Etchegoyen est transporté à son domicile où le médecin vient lui prodiguer les soins que son état grave nécessite. Au petit matin, le maire de Barcus se rend à son chevet. Il lui demande de décrire en détail ce qui s'est passé. Dominique est formel. L'obscurité l'a empêché de reconnaître l'agresseur qui semblait posté au loin, en embuscade. Les gendarmes de Mauléon rappliquent. À leurs yeux, c'est une vraie tentative d'assassinat. Les blessures de Dominique sont graves. Il aurait bien pu y passer.
Affaires classées avec Thierry Sagardoito.
L'enquête criminelle débute. Dominique jure qu'il ne se connaît aucun ennemi. Ses affaires sont saines et il est, dit-on à l'époque, de bonne mœurs. Les soins appliqués du docteur Alcat et sa constitution robuste lui vaudront une incapacité totale de travail de 20 jours. Mais il se rétablira de ses plaies, fort heureusement. À Barcus, l'affaire jette un émoi certain dans la population. À tel point que les rumeurs les plus folles circulent. Certains disent Dominique Etchegoyen décédé, quand d'autres désignent déjà le nom de l'assassin présumé. Dans leur procès-verbal, les gendarmes rapportent en effet que des soupçons insistants circulent sur la personne du premier voisin de la victime, un certain Etcheoun, du nom de la maison basque qu'il occupe ici, identifié comme étant Pierre Topet, né au village en 1786. Les gendarmes vérifient. Topet traîne la réputation d'être un mauvais sujet, un repris de justice aussi. À peine quadragénaire, il sort de la prison d'Eis où il a purgé 5 années de prison pour des violences graves sur l'ex-amant de sa femme. Et selon la rumeur, il ne rêvait que d'une chose, se faire justice lui-même et expédier en enfer celui qui l'a envoyé derrière les barreaux, un certain Egiafal, qui a passé lui aussi la journée du 1er mai à la foire d'Oloron. À Barcus, la clameur publique ne parle que de lui. C'est Topet, alias Etcheoun, le suspect, point final. Certains habitants
affirme qu'il a guetté le retour de son rival en se postant aux aguets. Trompé par l'obscurité régnant dans ce chemin creux et sinistre, il se serait trompé de cible, tirant par erreur sur Etchegoyen. Le scénario est séduisant, en apparence.
Affaire classée, un podcast ici Béarn Bigorre.
Les gendarmes ne voient pas qui en voulait au malheureux Etchegoyen. En revanche, la piste menant à Etcheoun semble beaucoup plus fructueuse. Ces derniers temps, par jalousie ou par haine, toutes les occasions étaient bonnes pour chercher querelle à son rival. Une voisine affirme qu'Etchegoyen lui a demandé si Egiafal avait bien l'intention de se rendre à la foire d'Oloron. Étonnante curiosité sur l'emploi du temps de son ennemi juré. Mieux encore, le métayer d'Etchegoyen affirme qu'il était bizarrement absent de sa maison la nuit du drame. Et ses enfants, ses propres enfants, le confirment. D'ailleurs, personne ne l'a revu depuis. Pour les gendarmes, les soupçons s'accumulent. Plusieurs villageois rapportent qu'Etchegoyen se cacherait dans les bois, sur les sommets de l'Aro. Pourquoi diable pareille fuite s'il n'a rien de son rocher ? Bizarre. Au tribunal de Saint-Palais, le procureur du roi, M. de la Régoyenne, discerne dans cette cavale comme un aveu de culpabilité. Il délivre donc un mandat d'arrêt contre le fugitif dont tout le monde parle, mais que personne ne voit. Il faut dire qu'en Soule, la personnalité de Pierre Topé, alias Etchegoyen, laisse peu indifférent. Doué d'une âme ardente, d'une susceptibilité que beaucoup disent excessive, l'homme a connu une jeunesse orageuse. Fâché avec ses parents, sa jalousie l'a conduit à suspecter l'infidélité de son épouse et à asséner un coup de hache au visage de son amant supposé, le fameux Egiafal. À l'époque, nombre de paysans basques s'expriment dans leur langue natale. Peu d'entre eux ont eu la chance d'aller à l'école. À la différence d'Etchegoyen qui, lui, a appris le français qu'il parle à la perfection.
Affaire classée avec Thierry Sagardoito.
Au Pays Basque, Etchegoyen passe pour être un poète. Né en pleine période romantique, il est l'auteur de nombreux chants dramatiques, des poèmes émouvants, dont les vers racontent les principaux événements de sa vie, souvent tragiques, comme son mariage avec une fille de niveau social inférieur. Une union qui a déshonoré sa famille alors qu'il n'avait que 20 ans. Vexé, son père l'avait menacé de le déshériter. Couchant ses malheurs sur le papier, le jeune homme devint poète et écrivain. Quand son épouse le trompa, Etchegoyen se mit à écrire sur le thème de l'amour trahi. Un sujet cher aux auteurs romantiques, mais ses écrits vont aussi se retourner contre lui. Alors qu'il est en cavale après les coups de feu tirés le 1er mai contre son voisin Etchegoyen, le poète se console en écrivant quelques vers. Planqué dans une cabane de berger, il compose un chant qui deviendra célèbre et dont voici le dernier couplet. Dans le village de Barcus, ne cherchez pas Etchegoyen. Vous qui, désirant l'arrêter, êtes à sa poursuite, il compose des chants à Iguelou, désignant ainsi le lieu de sa cache. Il n'y a pas de plus beau pâturage en Soule, conclut-il. Mais quand les gendarmes mettront la main sur ce poème, ils vont l'utiliser contre lui, comme une pièce à conviction, à charge. Etchegoyen est en effet interpellé 4 mois plus tard chez un notaire de Tardets alors qu'il s'apprêtait à signer un acte de vente par lequel il tentait de mettre sa propriété de campagne à l'abri de ses créanciers. Redoutait-il que la justice la confisque au cas où il serait reconnu coupable de la tentative d'assassinat sur Etchegoyen, son voisin, la nuit du 1er mai 1827.
Affaire classée, un podcast ici Béarn Bigorre.
Son procès aux assises s'ouvre le 18 août 1828 dans les murs du Parlement de Navarre, à deux pas du château palois. Vu la personnalité de l'accusé, l'audience défraie la chronique judiciaire. Ce n'est pas tous les jours, en effet, qu'on juge un poète écrivain. Face aux 12 hommes tirés au sort comme jurés, l'accusé a préféré s'habiller avec de misérables haillons. Lui qui est propriétaire de sa ferme, un luxe rare pour l'époque, il joue le pauvre. Une foule de dames élégantes se masse dans les rangs du public. Face à l'exposé de l'avocat général, M. Lamothe Duncan, Etcheoun ne varie pas. Il est innocent, voire persécuté. Ses malheurs datent de son mariage, clame-t-il dans un français excellent. Et tandis qu'il purgeait une peine de prison, sa femme a, dit-il, continué à le tromper avec son rival, le sieur Egiafal. Une fois libéré de la prison d'Eis, Etcheoun trouva l'amant de son épouse installé dans son propre lit, régnant en maître chez lui. Il le mit certes à la porte, mais l'accusé poète peinait à calmer sa peine. « Scélérat, tu buvais mon vin, tu mangeais mes jambons, tu devrais être à ma place » lance-t-il plein de haine à Egiafal, qui est cité comme témoin à la barre de la cour d'assises. Pour l'accusation, ce récit de souffrance, de haine, illustre à merveille le mobile du crime. Le soir du 1er mai 1827, selon l'avocat général, Etcheoun voulait faire la peau à Egiafal et il l'a patiemment attendu, en guet-apens. Et c'est par erreur, parce qu'il faisait nuit, qu'il s'est trompé, faisant feu sur Dominique Etchegoyen, qu'il faillit bien tuer. En leur intime conviction, les jurés vont pourtant absoudre le poète sultan aux mille malheurs. Etcheoun est acquitté. Il rentre à Barcus le soir même.
Affaire classée. Un podcast ici.
1er mai, jour de foire, c'était ce rendez-vous avec l'histoire en 1827 du côté de Barcus. Je vous retrouve dans un prochain numéro à la rencontre de la Deuxième Guerre. La Deuxième Guerre mondiale et un épisode qui s'intitulera « Mort aux traîtres ». Nous sommes en février 45, les Allemands ont quitté le Béarn, le Pays Basque, et pourtant, on juge à Pau un traître qui a livré aux Allemands les deux frères du célèbre cancérologue Léon Schwarzenberg. De quoi s'agit-il ? Réponse dans un prochain numéro. À bientôt.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici au Cerf.
Itinéraire bis, Catherine Marchesin.
Itinéraire bis à Chablis cette semaine et aujourd'hui je me suis arrêtée à l'obédiencerie du domaine La Roche, ici à Chablis. Margot Meunier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable marketing, communication, domaine La Roche. Une obédiencerie, Margot, c'est quoi ?
Alors, une obédiencerie, c'est un ancien monastère qui recueillait les chanoines de l'ordre de Saint-Martin de Tours et donc qui louait obédience au Seigneur, donc un lieu de prière et également un haut lieu de vin.
Ici, on est à l'origine des vins de Chablis, c'est ça ?
Exactement, l'obédiencerie est le berceau des vins de Chablis. Il faut imaginer que les chanoines sont arrivés à Chablis, ont cultivé la vigne et ont vinifié les vins ici à l'intérieur de nos caves pour la première fois.
On est dans une cave très très ancienne ici.
Tout à fait, la partie la plus historique est datée du 9e siècle.
Et ici, on entrepose quel type de vin de Chablis ?
Au domaine La Roche, on est fiers de continuer de vinifier, d'élever l'intégralité de nos premiers grands crus dans ces caves, qui nous permet de perpétuer cet héritage de plus de 1000 ans et d'avoir une qualité exceptionnelle au niveau des vins.
Cette obédiencerie, elle est ouverte à la visite et au public.
Tout à fait, on a à cœur de faire vivre et de partager cet héritage et ces monuments. Donc nous accueillons le grand public sur des créneaux fixes deux fois par jour tout au long de l'année et nous disposons aussi également de différentes prestations qui peuvent être sur mesure ou à la demande.
Qu'est-ce qu'on explique ? Quelle est l'histoire que l'on raconte aux visiteurs ?
Lorsqu'on reçoit des visiteurs, on leur fait partager l'histoire de l'obédiencerie et du domaine La Roche. C'est un voyage de plus de 1000 ans d'histoire à travers l'héritage culturel et vinicole que l'on détient.
Et puis on peut voir peut-être retoucher quelques grandes bouteilles.
Tout à fait, on a la chance d'avoir une vinothèque assez exceptionnelle, aussi bien en qualité qu'en démonstration. Donc c'est possible de découvrir des flacons aussi bien en format que des vieux millésimes que vous ne pouvez pas trouver partout.
Et puis un magnifique, exceptionnel pressoir.
Exactement, lors de la visite, vous êtes amené à découvrir un pressoir authentique du XIIIe siècle à l'intérieur de nos caves. C'est vraiment une découverte grandiose et qui retrace des siècles d'héritage vinicole en Bourgogne et particulièrement à Chablis.
Ici donc le berceau de ce vin exceptionnel qui est le Chablis, et puis c'est un endroit qui vit toujours.
Exactement, donc toutes les équipes se rendent quotidiennement dans les caves, que ce soit pour faire visiter au grand public ou que ce soit pour veiller sur le bon déroulement des vinifications et des élevages de nos vins.
Itinéraire bis. Catherine Marchezin.
Itinéraire bis à Chablis, et aujourd'hui on ne va pas parler de vin à Chablis, on va parler de bière. Alexis Madelin, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes aux bières Madame. Ces bières Madame, Alexis, elles sont nées comment et quand ?
Eh bien, elles sont nées il y a bientôt 10 ans, donc c'était en octobre 2016, la fondation des bières Madame, avec une première bière qui s'appelait la Porte Romane.
C'est plutôt étonnant de voir une entreprise, une microbrasserie comme ça, dans une des capitales du vin français.
Oui. Aussi, bien sûr, mais moi j'ai des origines viticoles, vigneronne, et du coup ça me semblait absolument normal pour moi de créer une brasserie ici. Et on retrouve beaucoup de similitudes entre la bière et le vin. On parle de fermentation, de mise en bouteille, de refermentation en bouteille, de méthode champenoise, donc on a beaucoup de similitudes, d'accord, mes boissons, donc mes bières, dans le cas concret, et puis bien sûr ça reste des produits plaisir qu'on peut consommer entre amis, en famille. Sans problème.
Et qu'on consomme bien sûr avec modération. Les caractéristiques des bières Madame, quelles sont-elles, Alexis ?
Alors, les caractéristiques principales, c'est bière avec une bulle très fine, une aromatique, une belle longueur en bouche, parce que justement pour faire le parallèle avec le monde du vin, on fait un élevage sur lit, donc en bouteille, et ce qui permet d'avoir des bières très aromatiques avec de la matière.
Et une belle gamme.
Et une gamme maintenant qui s'est bien densifiée depuis le démarrage il y a 10 ans, puisqu'on a aujourd'hui une dizaine, voire un petit peu plus de bières qui étudient un peu tous les styles, les grands styles des bières françaises et internationales, et aussi des bières un peu plus impactantes sur le territoire, puisqu'on a des bières qui sont élevés en fûts de chêne, donc des fûts de Chablis, des fûts de Bourgogne-Rouge, qu'on élève à la manière d'un vin, 10, 12, 15 mois d'élevage en fût, voilà.
Je voudrais qu'on parle ici de l'établissement où on se situe. C'est un établissement qui est presque neuf.
Oui, au début on a recherché pour s'installer en centre-ville, dans un bâtiment ancien, mais c'est compliqué à trouver quand même. Donc on s'est installé là où on a trouvé, donc un petit bâtiment au début, et en 2016, et ensuite on a agrandi en 2020-2021 pour avoir aujourd'hui une belle surface et de production et de vente, puisqu'on a aussi un bar maintenant avec de quoi accueillir également des séminaires d'entreprise.
Voilà, les bières pression, des tables où on peut déguster et quelquefois même manger. Dîner.
Eh oui, on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut, puisqu'on a même de la musique, des soirées musicales, des concerts de rock, de musique celtique, avec de la bière, ça se marie très très bien.
Catherine Marchezin, Itinéraire bis.
Itinéraire bis, toujours à Chablis cette semaine, et aujourd'hui j'ai décidé de m'arrêter au musée Vinéa Passion. Alexandre Gautrin, bonjour.
Bonjour à tous.
Ce musée, Alexandre, il porte bien son nom, puisque vous avez réuni ici le fruit d'une vraie passion, le vin.
Oui, exactement. J'ai commencé de collectionner les outils de la vigne et du vin dès mon plus jeune âge, à l'âge de 16-17 ans, jusqu'à aujourd'hui, et j'ai 48 ans.
Alors, on va parler de ce musée. Il est sur deux étages, c'est ça ?
Il est sur deux niveaux. Et le musée Vinéa Passion retrace l'évolution de la vigne et du vin depuis le 19e jusqu'à nos jours. On a environ 3000 objets, à peu près. Il faudrait les recompter, ce qu'on en rajoute toujours. Hein, quand on trouve de nouvelles pièces, on les rajoute. Mais bon, ça fait déjà une collection assez conséquente.
Des pièces qui sont les vôtres, vous l'avez dit, mais qui vous sont donnés, que vous achetez, que vous trouvez où ?
Toute ma collection, c'est dû à 30 ans de Chine, sur les brocantes, les vigreniers, les foires aux outils spécialisés, en fait un vrai métier d'outil de la vigne
et
du vin.
Et c'est important pour vous d'ouvrir ce musée pour les montrer au grand public et pour expliquer ce qu'était le travail de la vigne.
Ben oui, c'est très important de déjà premièrement de mettre en valeur les outils d'autrefois que les anciens utilisaient pour faire voir l'évolution en laquelle nous en sommes arrivés aujourd'hui avec des outils ultra modernes par rapport à il y a 150 ou 200 ans. Hein.
On peut donner des exemples là autour de nous. On a un gros pressoir qui date du début du XXe siècle, c'est ça ?
Oui, ben ça c'est une particularité, c'est peut-être l'outil le plus vieux du musée. On peut pas le dater parce que ce sont des outils qui étaient fabriqués artisanalement, des visseries faites à la forge, enfin vraiment des belles choses.
Combien de mètres carrés vous avez ici, Alexandre ?
Environ 800 mètres carrés.
Et une salle de projection également.
Oui, effectivement, une salle cinéma sur un grand écran. Pour y parler du vignoble de Chablis, on a une vidéo autre sur les gelées de printemps, la nuit.
Et puis ici, il y a également un petit train touristique, Alexandre.
Alors oui, c'est une activité qu'on propose depuis 2 ans. Découvrir le vignoble de Chablis en petit train touristique et le village de Chablis. Tout ça, c'est une balade qui dure environ 1 heure. 30 minutes dans les vignes, 30 minutes dans Chablis. Et tous les édifices où on passe dans Chablis sont commentés.
Ici Auxerre, itinéraire bis.
Itinéraire bis à Chablis. Aujourd'hui, on va parler de patrimoine. Je suis en compagnie de Joël Bouchard. Joël, bonjour.
Bonjour.
Ça s'entend peut-être. Nous sommes à la Collégiale Saint-Martin et avec vous, on va parler de l'association Chablis Terre d'Histoire. Cette association, quels sont ses buts, ses missions ?
Je dois déjà commencer par le commencement, c'est-à-dire elle a été créée en 2019, ce qui n'est pas si ancien. Et ça n'a l'air de rien, mais à l'heure actuelle, nous voilà rendus à 70 adhérents. Et c'était notre objectif de parler patrimoine, de parler histoire et de parler richesse et intérêt de notre histoire.
Parce que Chablis, ce n'est pas que le vin.
Alors, Chablis, ça n'est pas que le vin, mais c'est quand même principalement le vin. On tourne autour du vin dans les recherches que nous faisons, dans les découvertes que nous faisons.
Alors ici, on est dans la Collégiale, Joël, et eh bien, il y a eu des recherches de fait et des choses extraordinaires de découvertes. On peut le dire.
Quand on dit découverte, c'est en fait des choses qui étaient au vu et au su de tout le monde depuis quasiment le 19e siècle, à savoir des toiles, des tableaux de grands noms de la peinture française, déjà comme Pierre Mignat, ensuite Philippe de Champaigne, qui était le portraitiste officiel du roi Louis XIII, et une toile attribuée au peintre Bassano, qui est une référence de la Renaissance italienne.
Joël, lorsque j'ai poussé les portes de cette Collégiale Saint-Martin ici à Chablis, je me suis aperçu que ce très beau monument, je pouvais le visiter grâce à mon téléphone.
Alors ça a été un de nos... Ouf ! Une belle victoire de l'année 2024, au cours de laquelle nous avons réussi à faire référencer par le site Belles Églises, qui est d'envergure nationale, notre Collégiale Saint-Martin. Donc nous avons fourni à Belles Églises toute la documentation technique, architecturale, historique, etc., qui est actuellement, maintenant, à disposition du visiteur, numérique, entièrement gratuit.
Et puis en parlant de cette association, moi je suis allée faire un petit tour sur votre site internet, et là, il est magnifique. Avant de venir visiter Chablis, regardez-le.
Je vous ai parlé de 2019, la création de notre association, ça a été notre tout premier objectif, première réalisation. On trouve sur ce site toute la documentation, l'explication, la vitrine de ce qu'est l'histoire de Chablis, avec des éléments documentaires qui n'ont jusqu'alors jamais été publiés, donc d'un intérêt majeur.
Ici Auxerre, Catherine Marchesin, itinéraire bis.
Itinéraire bis à Chablis cette semaine, et vous l'attendez tous, c'est la partie gourmande de ma balade. Ici à Chablis, je suis à la boulangerie-pâtisserie Le Pilier de Chablis dans la famille Boucher. Je voudrais Amandine. Amandine, bonjour.
Bonjour.
Présentez-vous à nos auditeurs. Ici, on est dans une affaire totalement familiale.
Oui, je suis du coup la fille de la maison. Ma maman est la chef pâtissière de l'entreprise et mon papa chef boulanger.
C'est pour ça, dites-moi, qu'ils vous ont prénommé Amandine.
Je pense que ça vient un peu de là. C'était soit Amandine, soit Charlotte.
On va parler des spécialités de la maison. Alors ici, quand on rentre, on a envie de tout manger. On va commencer par les spécialités de pain, là, qui sont juste à côté de nous, si vous le voulez bien, Amandine.
Oui, alors en spécialité de pain, donc, on peut retrouver chez nous donc, la tradition. Après, on a tout ce qui est pain spéciaux, donc le pain au maïs, le bûcheron, qui est un petit peu plus prononcé en goût, le 7 céréales et plein d'autres variétés.
On passe à la pâtisserie. Je suis dans mon élément, moi, ici. Hein.
Moi aussi. Alors, la pâtisserie, on fait tout ce qui est pâtisserie classique, on va dire pâte à choux, tartelettes, et puis gâteaux un petit peu plus travaillés.
Et c'est la maman qui les fait.
Exactement.
Et puis, les chocolats, avec un chocolat qui a donné son nom à cette boulangerie-pâtisserie, c'est le Pilier de Chablis.
Oui, c'est ça. Alors, le Pilier de Chablis, c'est vraiment notre spécialité ici. C'est une marque qui est déposée, donc qui existe déjà depuis plus de 30 ans maintenant. Donc, c'est un bonbon de chocolat, donc avec un enrobage chocolat noir, lait ou blanc. Et à l'intérieur, on trouve une ganache pralinée au marc de Bourgogne avec des raisins macérés au ratafia.
C'est une recette qui existe depuis plus de 30 ans et c'est une recette qui a été transmise à votre maman, votre papa ?
Exactement. On a repris la recette avec la boulangerie.
Il y a d'autres spécialités gourmandes comme ça ? On m'a dit qu'on se déplaçait le dimanche pour la gougère de la boulangerie-pâtisserie Le Pilier de Chablis ici.
C'est vrai que le dimanche, c'est le jour du marché ici à Chablis. Et la gougère, c'est quelque chose qui accompagne parfaitement le Chablis. Donc le dimanche, oui, c'est une grosse journée gougère. Et en période estivale, on la détourne aussi avec des lardons, de l'andouillette, de l'escargot, tout ce qu'il faut.
Itinéraire bis, Catherine Marchesin.
Écoutez ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici Bourgogne.
Le vin, ça prend du temps. 18 mois en général en Bourgogne avant d'être mis en bouteille. En ce moment, le millésime 2024 finit son élevage en fût comme à Beaune chez Philippe Pacalé. C'est dans le calme de ses caves qu'il nous raconte les notes aromatiques de son Gevrey 2024.
Donc là, on a changé de cave. On est plutôt sur du 2024, c'est ça ?
On est sur des 2024 rouges.
Attendez, vous voulez que je prenne votre micro ? C'est peut-être plus pratique. Hop, voilà. Donc là, vous avez ouvert le tonneau. Vous plongez la
pipette. Et on se retrouve avec un misime classique, c'est pour ça qu'on voit. On a une belle robe rubis, Gevrey Village. C'est quatre parcelles différentes. Gevrey, c'est toujours beaucoup de fruits. Hein. Ça fait un vin assez gourmand et toujours beaucoup de structure. Il y a les deux. Si on prend 10 personnes, toujours 7 qui l'apprécient. On va les soutirer pour les mettre en bouteille l'année prochaine.
Quand vous dites préparer, ça veut dire que...
On a mis un bouchon.
Ça, donc là, c'est le bouchon qui est à l'intérieur du...
Voilà, après on met le robinet.
D'accord.
Parce qu'on n'utilise pas de pompe, on fait par gravité. Ça évite d'aspirer le vin, c'est moins stressant.
C'est plus doux.
Voilà.
Ah, on peut stresser des vins.
Ouais, c'est de la matière vivante. Ouais. C'est comme nous, ça évolue. C'est un peu à l'image de l'homme, le vin. C'est un produit culturel. Il y a beaucoup de points communs.
Donc il faut lui apporter beaucoup de douceur. Ouais.
Même si la forme du vin, là, c'est le tonneau après la bouteille. Nous, on a un squelette, c'est différent. Mais c'est une construction différente.
Oui, mais nous, on se trimballe avec le même squelette toute la vie.
Voilà.
Eux, ils changent de squelette quand même.
Mais on ne grandit plus à partir de 21 ans, normalement.
Non.
Et les vins, dès qu'on les a mis en bouteille, ils grandissent, mais différemment, parce qu'ils sont aussi coincés dans cette bouteille.
C'est pour ça qu'on a cette forme de tonneau, finalement, parce qu'on aurait pu mettre ça dans des cubes, finalement.
Enfin... C'est un œuf coupé au debout. L'œuf sous la terre, la gestation, enfin, il y a toujours une jolie philosophie avec tout ça, mais c'est... Hein, il y a un sédiment qui se forme au fond du tonneau, qui s'appelle l'ali, donc quand vous remuez le tonneau, ça remélange, ça dynamise, quoi. C'est un peu comme un bébé avec son placenta, quoi. C'est... Il y a une naissance. et ça protège le vin, donc ça dure un certain temps, c'est pour ça qu'on doit soutirer. J'ai un rôle protecteur et nourricier, c'est bien fait quand même.
Philippe Pacalier à Beaune est le papa de 50 000 bébés quand même, bouteilles par an, c'est pas rien et ça fait partie de la fierté de notre région.
Vous écoutez Ici.
Dropping back, fork in the road.